Andréa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et bonjour et bienvenue sur France Inter. Nous sommes le lundi 23 mars, début de la deuxième semaine à la maison. J'espère tout simplement que vous allez bien. Nous sommes avec Léa, très heureux en tout cas de vous accompagner aujourd'hui pendant 2 heures.
Oui, nous sommes là au rendez-vous en espérant que ça dure le plus longtemps possible, tout en respectant les gestes barrières et les distances de sécurité. Sachez que Nicolas et moi sommes assis dans le même studio, mais à 3 mètres l'un de l'autre, on n'a jamais été aussi loin.
Voilà, et à 3 mètres aussi Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin. Faut-il prolonger et ou durcir le confinement? Le Conseil d'État donne 48 heures au gouvernement pour préciser les mesures de lutte contre le Covid-19 qui ne sont pas suffisamment respectées. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
Demander à ses salariés de venir travailler ou pas, le dilemme des chefs d'entreprise. L'enquête de la cellule d'investigation de Radio France sur le manque de masques dans notre pays. Faut-il croire les chiffres officiels de la Chine? La solidarité qui s'organise en cette deuxième semaine de confinement et puis les Jeux Olympiques, même les autorités japonaises commencent à douter. Nous serons en direct de Tokyo.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Il est à la tête de la région qui a accueilli le premier foyer de contamination et qui est aujourd'hui l'une des plus touchées par le virus. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale le professeur Philippe Juvin. Il est chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Vous pourrez évidemment dialoguer avec lui. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard vous attend.
France Inter.
91 824 infractions constatées entre mardi et dimanche dernier. Trop de coureurs dans les rues, trop de monde sur les marchés, trop de rendez-vous médicaux non urgents. Malgré l'annonce de sanctions de plus en plus lourdes, les mesures de confinement peinent à être respectées. D'où la saisie du Conseil d'État par les médecins pour exiger un confinement total. Le Conseil d'État a répondu hier soir, rejetant l'option radicale, mais demandant au gouvernement plus de précision. Certaines dérogations doivent être mieux expliquées et plus restrictives. Jean-Philippe Deniaux.
Les exceptions au confinement sont trop imprécises, dit en substance le Conseil d'État. L'autorisation de sortie pour raison de santé, ça doit dépendre du degré d'urgence. Le maintien des marchés, ça doit dépendre de la taille et de la fréquentation. Quant au déplacement bref à proximité du domicile, c'est trop large, dit le Conseil d'État. Il y a trop de joggeurs dans les rues. Maître Vianney Petetin est l'avocat du syndicat Jeunes Médecins.
On attend évidemment un électrochoc. On demande clairement au gouvernement d'en faire plus, d'être plus précis et d'être un peu plus contraignant quand même. Il s'agirait de fermer les marchés et de restreindre les sorties parce que seul un confinement beaucoup plus important que celui qui est mis en œuvre aujourd'hui, même sur une courte période de l'ordre de 15 jours, 3 semaines, permettrait aux médecins de reprendre la main sur la situation, de retomber dans l'action plutôt que dans la réaction à la vague d'infection qui nous attaque aujourd'hui.
Le gouvernement devra donc réécrire la fameuse attestation de déplacement dérogatoire avant mardi soir.
Le gouvernement qui devrait effectivement prolonger le confinement au-delà de la date initiale de fin mars, après avis du conseil scientifique, qui doit dresser aujourd'hui un premier bilan d'une semaine de confinement. Le chef de l'État doit lui consulter ce matin par audioconférence les autorités morales et religieuses pour échanger sur la cohésion morale du pays face à la crise. Comme il l'avait déjà évoqué, le ministre de l'Éducation nationale n'envisage pas, lui, un retour des élèves en classe avant le 4 mai, date de la fin des vacances de printemps pour la dernière zone en congé. Du côté des chefs d'entreprise, le dilemme est grand entre la volonté de protéger la santé des salariés et les injonctions du gouvernement à maintenir une activité économique dans le pays. Gwenaëlle Maisonneuve dirige un bureau d'études en environnement à Saint-Paul-les-Dax dans les Landes. Son entreprise ne fait pas partie de celles qui doivent fermer et le télétravail n'est pas possible pour tous les salariés. Alors, doit-elle continuer ou pas à faire travailler ses salariés? Une question qui la préoccupe énormément.
Actuellement, ce que je souhaite lancer, c'est un cri d'alarme désespéré basé sur ce que je vis moi en tant que chef d'entreprise, mais aussi en me faisant un peu le relais des témoignages que j'ai de mes confrères entrepreneurs autour de moi. On a eu en 48 heures un revirement total en fait de la position du gouvernement sur la notion de confinement, avec aujourd'hui clairement une injonction à reprendre le travail, si on ne fait pas partie des activités interdites par décret, c'est-à-dire reprendre le travail même si le télétravail n'est pas possible. C'est le cas de beaucoup d'entreprises dans les Landes, hein, usines, construction, le bâtiment, les scieries. Remettre en situation de travail toute une équipe, c'est forcément participer à la propagation du virus. En tant que chef d'entreprise aujourd'hui, notre grand rendez-vous avec la vie, c'est de choisir en toute conscience si on va protéger nos concitoyens et faire barrière au virus ou sauver l'économie du pays en retournant quoi qu'il nous en coûte, travailler.
Témoignage recueilli par Justine Agard de France Bleu Gascogne. Les chantiers devraient reprendre aujourd'hui après un accord trouvé ce week-end entre le BTP et le gouvernement. Le gouvernement considère que ce secteur est un rouage essentiel de l'économie. Le travail devrait aussi reprendre dans les usines françaises et espagnoles d'Airbus après la mise en place de mesures sanitaires. Et puis la SNCF annonce ce matin que les TGV et les intercités seront désormais gratuits pour les personnels médicaux et paramédicaux qui répondent aux appels de solidarité. Il est 7h et presque 6 minutes sur France Inter et c'est toujours ce matin la région Grand Est qui est la plus touchée par le Covid-19. 271 des 674 décès ont été enregistrés dans cette région où 480 personnes sont actuellement en réanimation. Des malades ont été transférés vers Bordeaux mais aussi en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse. D'ici quelques heures, voire quelques jours, des malades pourront être pris en charge dans l'hôpital de campagne monté ce week-end sur le parking de l'hôpital de Mulhouse. Une vingtaine de tentes qui pourront accueillir une trentaine de malades en réanimation. Patrick Janton de France Bleu Alsace a pu visiter cet hôpital de campagne. Reportage.
Sur place, des dizaines de personnes s'affairent à équiper cet élément militaire de réanimation. Les grandes tentes sont déjà en place, une structure de 1000 mètres carrés. Des containers sont à proximité avec les lits et tout l'appareillage médical.
Donc voilà, donc on est à l'intérieur de la structure.
Le commandant Nicolas.
Donc là, on est dans la partie accueil. Et donc ici, on va orienter les gens sur les trois unités. C'est un énorme défi logistique. Ce type de structure, c'est la première fois que c'est déployé sur le territoire national.
L'élément militaire de réanimation travaillera en étroite liaison avec l'hôpital mulhousien. C'est une structure d'appoint qui vise à soulager les services de réanimation qui sont débordés. Le commandant Antoine du service de santé des armées.
On a une structure qui va délester l'hôpital et permettre de libérer des lits. Bien entendu, la technicité des soins qu'on peut délivrer dans une structure sous tente est inférieure à celle qu'on peut délivrer dans une structure en dur. On prendra des patients qui seront plutôt déjà sur une phase d'amélioration. S'il y a d'autres défaillances d'organes, c'est des patients qui seront trop lourds pour venir dans notre structure et qui resteront à l'hôpital.
L'ouverture est prévue en début de semaine, mais il faudra auparavant valider tous les éléments de sécurité. L'objectif est de proposer 30 lits de réanimation pour soulager un hôpital de Mulhouse complètement submergé par l'afflux de patients en réanimation.
Globalement, le bilan en France est aujourd'hui de plus de 16 000 contaminations, plus de 7 000 personnes hospitalisées, dont 1 700 en réanimation. Une crise sanitaire qui révèle les fractures dans le monde médical. Faut-il ou non généraliser les tests? Les essais sur l'utilisation de la chloroquine sont-ils fiables? Polémique aussi sur le nombre de masques dont dispose la France. Le ministre de la Santé disait récemment que la diminution des stocks remontait à 2011. À l'époque, Xavier Bertrand était ministre de la Santé. Ce dernier a démenti en expliquant que la chute a commencé plus tard, en 2013, alors que la gauche était au pouvoir. Alors vous avez enquêté, Benoît Colombat, qui faut-il croire ?
Contrairement à ce qu'on a pu penser dans un premier temps, le véritable tournant dans la gestion du stock de masques, il intervient non pas en 2011, mais en mai 2013, avec un changement de doctrine préconisé par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. On abandonne l'idée d'une gestion centralisée au plus haut niveau de l'État. Chaque employeur devra désormais constituer son propre stock de masques en fonction de ses besoins. Il y a encore une réserve stratégique, mais chaque hôpital devra donc acheter ses masques dans son coin, ce qui entraîne progressivement une baisse du nombre de masques. Mais dans l'entourage de Marisol Touraine, qui était alors ministre de la Santé, on explique que le stock global de masques était encore de 900 millions en 2012 et de 700 millions en 2017. Si ces chiffres sont exacts, il y a donc un mystère car personne ne comprend pourquoi il n'y avait plus que 110 millions de masques dans les stocks de l'État en 2020. Et c'est pour en avoir le cœur net que plusieurs syndicats des professionnels de santé réclament une commission d'enquête parlementaire après la crise.
Une enquête de la cellule investigation de Radio France à retrouver sur franceinter.fr. Pour la petite histoire, les maisons Yves Saint-Laurent et Balenciaga vont fabriquer des masques en tissu comme le fait Gucci en Italie. Et rappelons que Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, sera l'invité tout à l'heure à 7h50 sur France Inter. Et c'est aujourd'hui en Europe que le nombre de cas flambe. En Italie d'abord, avec 5500 morts et une situation qualifiée de tragique. Mais aussi en Espagne, en Allemagne, où la chancelière Angela Merkel est en quarantaine pour avoir aurait été en contact avec une médecin contaminée. En Grèce, les mesures de confinement entrent en vigueur aujourd'hui. Et puis la Chine, d'où est parti le Covid-19, affiche de son côté un bilan officiel de 3200 morts et une épidémie quasiment maîtrisée. Pourtant, médecins, lanceurs d'alerte, ONG, associations de défense des droits de l'homme, nombreux sont ceux à penser que les chiffres du régime chinois sont faux. Certains parlent même de dizaines, voire de centaines de milliers de victimes. Une vérité impossible à connaître pour les communistes chinois qui tentent de réécrire l'histoire, comme l'explique Marie Holzmann, présidente de l'association Solidarité Chine.
Cette épidémie est une catastrophe pour la Chine, mais c'est aussi une catastrophe pour son image, c'est-à-dire qu'elle donne l'image d'un pays de sous-développé où toutes sortes d'épidémies bizarres circulent et que le gouvernement est incapable de les contrôler, de les soigner, de les prévenir. Et maintenant, le gouvernement chinois est en train d'essayer de renverser la machine de l'information en disant que non seulement l'épidémie ne vient pas de Chine, mais qu'en plus, c'est la Chine qui va sauver le monde de cette épidémie qui s'attaque à l'ensemble de la planète. Et ce qui est stupéfiant, c'est que cette propagande marche. On entend maintenant les Français, les Italiens qui disent, grâce aux masques chinois, grâce à l'expertise des Chinois qui ont su juguler cette épidémie en Chine, nous allons nous en sortir. Mais on n'a aucune preuve que l'épidémie a été jugulée en Chine. Cette volonté d'inverser la réalité des faits est tellement bien élaborée qu'on a l'impression que tous les observateurs et tous les acteurs tombent dans le piège. C'est quelque chose de vraiment terrifiant.
Témoignage recueilli par Nathanaël Charbonnier. Dans le monde, on retiendra aussi un premier cas officiel en Syrie, en Angola, en Ouganda et en Érythrée, et un premier mort au Gabon. Et pendant ce temps, en France, la solidarité s'organise. Le gouvernement a ouvert hier une plateforme pour recenser les bénévoles qui souhaitent venir en aide aux personnes âgées, démunies, isolées ou sans domicile. Et puis, il y a la solidarité qui s'organise quartier par quartier via des applications comme Nextdoor, un réseau de voisinage qui fonctionne à plein régime. Timur Ostruc.
En temps normal, sur Nextdoor, on cherche un babysitter dans son quartier, on propose à ses voisins de faire du sport en groupe. Aujourd'hui, explique Karim Bassiri, le responsable de cette entreprise en France, il s'agit plutôt d'une entraide adaptée au confinement.
Vous avez une partie des membres qui vont proposer leur aide de manière complètement bénévole et solidaire pour aller chercher vos médicaments à la pharmacie ou pour aller faire des courses pour vous et ensuite les déposer soit au pied de l'immeuble, soit sur le pas de porte pour éviter tout contact physique tout en dépannant la personne.
Dans le 19e arrondissement de Paris, Mélanie se propose d'aider depuis mardi. Elle va commencer à faire les courses pour une dame âgée à deux rues de chez elle. Une envie d'être utile et de tisser de nouveaux liens.
Là, je peux donner un petit coup de main et puis si cette dame, je peux la revoir un petit peu après, lorsque tout se sera apaisé autour d'un café, c'est plutôt sympathique, quoi.
Mais après la publication de son annonce, Mélanie reçoit aussi des messages inquiets. Est-ce bien prudent? Peut-on s'entraider sans prendre le risque d'infecter les autres? Mélanie regrette un manque de précision dans les consignes des autorités.
S'il pouvait y avoir un peu plus de clarté, ça aiderait les gens à savoir comment se comporter, en fait. Il y a un certain flou autour de tout ça. Ça doit pas aider la solidarité, quoi.
Déjà, le confinement semble tout de même renforcer les liens entre voisins. Le site Nextdoor enregistre 4 fois plus d'annonces sur une semaine.
Enfin, il est 7h13, les JO auront-ils lieu cet été au Japon?
La question se pose depuis plusieurs jours déjà. Jusqu'ici, les autorités japonaises se montraient inflexibles. Bonjour Karine Nishimura.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Tokyo ce matin pour France Inter. Karine, le Premier ministre japonais ce matin s'est montré beaucoup moins affirmatif.
Oh oui, c'est un retournement complet, mais le gouvernement japonais n'a plus le choix. Le fait que le Comité international olympique, qui a le pouvoir de décider, évoque la possibilité d'un report, eh bien, l'oblige à suivre ouvertement, même s'il réfute toujours l'hypothèse d'une annulation. Alors, face à des dirigeants nippons qui martelaient, on prépare les JO comme prévu, des voix dissonantes commençaient aussi à se faire entendre depuis la semaine dernière au Japon. Une membre du Comité olympique japonais a exigé un report, et puis qu'on en finisse avec ce qui apparaissait de plus en plus comme une forme d'indifférence à la situation pandémique internationale. Alors il est vrai que le Japon, lui, est relativement épargné. Officiellement, il ne compte qu'un millier de personnes contaminées au coronavirus. Et puis une partie des élites n'avait pas pris la mesure de la crise sanitaire mondiale. Mais ce n'est carrément plus tenable. Les 4 semaines à venir, elles vont être très agitées car il va falloir faire des simulations financières et puis décider si on maintient ou non le relais de la flamme olympique qui doit débuter ce jeudi dans la préfecture de Fukushima.
Merci Karine Nishimura en direct de Tokyo ce matin pour France Inter. Et le Canada a déclaré ce matin qu'il n'enverrait pas de délégation au Japon.
Agnès Soubiran, merci.